14 de l'Apocalypse, le chapitre 14 de l'Apocalypse, le verset 6 à 13. Apocalypse, chapitre 6, chapitre 14, verset 6 à 13. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, et disant d'une voix forte, « Craignez l'Éternel et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Et un autre ange le suivit en disant, « elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera aux siècles des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. » Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » « Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs œuvres et leurs œuvres les suivent. » Alors, on avait débuté la semaine dernière les cinq premiers versets. Persévérons aujourd'hui, nous continuons notre étude du 14e chapitre de l'Apocalypse. Alors, j'ai donné comme titre aujourd'hui au sermon « Le message des trois anges pour le monde et pour l'Église, alerter, appeler et annoncer ». Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude ensemble. Alors, notre Dieu, notre Père, nous venons ta sainte présence. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier, nous voulons t'adorer. Nous voulons vraiment, Seigneur, t'exprimer notre joie, notre reconnaissance de nous avoir laissé le livre de l'Apocalypse qui nous révèle avec plus de détails l'ensemble de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Puisses-tu aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, nous ouvrir l'intelligence à la compréhension de ta parole, et surtout, Seigneur, à ce qu'on retienne les principes que tu veux nous enseigner pour transformer nos vies de tous les jours. On te demande, Seigneur, d'être avec nous, de nous éclairer, de nous guider, et on te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, je rappelle le titre, le message des trois anges pour le monde et pour l'Église, alerter, appeler et annoncer. Alors, il y a une chose qui est importante pour nous de réaliser lorsqu'on étudie les chapitres 13 et 14, c'est qu'ils sont vraiment liés ensemble. Et le Seigneur utilise le contraste du chapitre 13 par rapport au chapitre 14 pour nous enseigner plusieurs choses. Alors, dans le chapitre 13, nous avons la mauvaise nouvelle des deux bêtes. Donc, on avait vu dans les leçons précédentes qu'il y avait une bête politique et une bête religieuse. Et ces deux bêtes veulent établir le gouvernement mondial et la religion mondiale. Et ils veulent aussi installer le royaume de l'Antichrist sur la terre. Dans le chapitre 13, tout nous semble indiquer qu'ils soient victorieux. Cependant, c'est dans leur point de vue. Le peuple de Dieu semble sans espoir. Dieu, cependant, leur rappelle qu'aucun des élus ne manquera dans le ciel. Maintenant, le chapitre 14, on parle du même royaume, celui de l'Antichrist, mais dans la perspective divine et céleste. Alors, ce royaume de l'Antichrist, Dieu veut que nous sachions qu'il est voué à la destruction. Le royaume du Christ et de ses élus ne sera jamais détruit. L'agneau règne dans la gloire avec l'Église triomphante, dans les chants victorieux et dans les louanges. Ceux qui ont suivi Christ dans la candeur, dans l'honnêteté, dans la transparence et dans la simplicité de l'Évangile sont tous présents. C'est un puissant encouragement pour l'Église militante qui est encore sur la terre. Alors, on voit vraiment que Dieu utilise le contraire. Il nous montre le chapitre 13 et il nous montre le chapitre 14. Il y a un contraste entre les deux et le Seigneur s'en sert pour nous montrer l'établissement du royaume de l'Antichrist dans sa perspective à lui où il semble victorieux. Tout après, dans le chapitre 14, il nous montre le même royaume dans la perspective divine et céleste. C'est très important de saisir ce que le Seigneur est en train de faire, parce qu'il veut, Dieu veut montrer au monde que l'heure du jugement est venue, que Babylone la Grande est tombée par décret divin. Et aussi, le Seigneur veut avertir des malheurs qui guettent les adorateurs de la bête. Alors, le Seigneur, bien entendu, utilise toute cette description pour inviter son peuple à la persévérance et aussi à la méditation sur leur bonheur éternel futur. La leçon de cette semaine, les versets 14 à 20, mais c'est pour présenter les versets 14 à 20 dans l'ensemble du chapitre 14, pour montrer que, dans le fond, c'est vraiment Dieu qui veut nous montrer la destruction du royaume de l'Antichrist. Alors, les versets 14 à 20, qu'on va développer dans les prochaines leçons, développeront quant à eux l'idée que le temps de moissonner est venu parce que la moisson de la terre est mûre. Pour le passage qu'on étudie est intéressant de comparer avec un autre passage des Écritures où on nous parle de la même chose et où on nous parle un peu comment le Seigneur voit les efforts de l'Antichrist pour établir son royaume sur la terre. Et ça, c'est ce passage-là, c'est vraiment dans le psaume 2, où le Seigneur nous montre les efforts des hommes et de ses ennemis pour le détrôner, ainsi que détrôner son fils Jésus-Christ, que lui-même a sacré roi. Alors, on va relire un peu le chapitre psaume 2, verset 1 à 12, parce qu'il y a des choses importantes qui nous sont révélées et qui viennent très bien s'accorder avec ce qu'on est en train d'étudier. Alors, je relis le psaume 2, verset 1 à 12. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons-les loin de nous leurs cordes. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère, il les épouvantera dans son courroux, Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence, recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite, que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, le passage nous rassure et nous dit que Christ sera roi éternellement et il maintiendra toujours sa souveraineté, son autorité et sa puissance sur le royaume des ténèbres. Alors, on va regarder le premier point qui va être le message des trois anges. Donc, l'idée du message des trois anges s'exprime avec les idées d'alerter, d'annoncer. Alors, on va les voir une par une. On va commencer par la première idée, dans le verset 6 à 11. Le message des trois anges, c'est celui d'alerter. Alerter, c'est avertir. Alors, dans le commentaire du pasteur Herman Oxema, il donne une remarque qui est très éclairante sur l'ensemble du passage, et je pense que ça peut vraiment nous aider à comprendre le sens de l'ensemble du passage. Alors, je vous lis, je le cite, il dit, « Pour comprendre les mots de notre texte, vous devez saisir à nouveau la situation dans son ensemble. L'Antichrist est suprême. Imaginez simplement que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vivez à cette époque. L'Antichrist a établi son royaume, il règne sur le monde entier, et tout le monde l'admire, lui et son royaume. Ce règne antichrétien sera caractérisé par l'apostasie du Dieu vivant. Dieu et sa vérité seront niés et le sang de Christ, le sang de Jésus sera foulé aux pieds. Le diable et la bête seront l'objet d'adoration. Dans chaque rue et coin, dans chaque boutique et magasin, vous rencontrerez l'image de la bête, et universellement, les hommes s'inclinent devant lui. Partout, vous rencontrez des hommes qui portent le signe de la bête sur leur front ou sur la main droite. En tant que peuple de Dieu, vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, et ils vous pousseront au mur. Il n'y a pas de refuge, semble-t-il, et la souffrance est terrible. C'est un monde de tribulation, et le blasphème contre le nom de Dieu, est apparemment impuni. Quelle sera maintenant la question qui se posera dans votre esprit? Fera-t-il fouler aux pieds la gloire de son nom? Et laissera-t-il ses saints sans vengeance? Tout dépend. Si Dieu abandonne sa revendication éternelle, à savoir que la créature l'adorera seule et craindra et glorifiera son nom, il laissera aller ces choses et il n'y a pas de fin en vue. Si Dieu changeait d'avis, Si notre Dieu de l'Alliance, si Dieu renonce à sa revendication éternelle, à savoir que lui seulement peut recevoir la gloire, alors, effectivement, le cas est sans espoir. Alors, il ne fera rien. Alors, il ne se lèvera pas pour écraser cette terrible puissance et pour sauver son propre peuple. Alors, nous sommes le peuple de l'Alliance d'un Dieu qui a abandonné la gloire de son propre nom. Mais ce n'est pas le cas. Non, l'agneau se tient sur le mont Sion. Et parce que l'agneau, loin de Dieu, se tient à la place de sa puissance, Dieu ne lâchera pas son exigence. Et c'est pourquoi, à chaque nation, tribu et langue, l'exigence est maintenue. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. De ce point de vue, tout est clair. La signification de ces mots peut maintenant être comprise. L'ange sonne l'évangile éternel. C'est l'évangile que Dieu est souverain, l'évangile que Dieu est suprême. C'est l'évangile que toute la création doit le craindre et lui seul, et qu'il jugera tous ceux qui refusent de l'adorer. Cette exigence est aussi éternelle que le propre décret de Dieu, et elle durera pour toujours. Cet évangile ne changera jamais. Dieu maintiendra sa gloire et sa revendication. Et parce que le Tout-Puissant maintient cette affirmation et cette exigence, le royaume des ténèbres doit être détruit. Alors ça, c'est une traduction que j'ai pris le texte dans la page 494 et 495 de son volume qui s'appelle « Behold, He Cometh, an exposition of the Book of Revelation ». Alors, bien sûr, quand on prend un texte comme ça à l'intérieur d'un livre qui est écrit en anglais, on le met dans Google Traduction, ça fait quand même un bon travail, mais je l'ai corrigé un petit peu ici et là. Mais en gros, c'est vraiment la citation de Herman Oxema. Et je pense qu'elle est très éclairante parce qu'elle nous amène une compréhension de ce que c'est l'Évangile éternel. L'Évangile éternel, ce n'est pas l'Évangile du salut en Jésus-Christ, c'est vraiment l'exigence que Dieu demande à toutes ses créatures. Ils ont le devoir de l'adorer et de l'adorer lui seul, et que jamais il n'abandonnera. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Évangile éternel. Alors, si on résumerait un peu ce qu'on vient de voir en une seule idée, ce serait celle-ci. Dieu maintient son exigence éternelle. Lui seul doit être craint et adoré. Dieu l'exige avec l'autorité appropriée et la revendique comme un droit sur toute sa création. Très important de saisir ça. Si on ne saisit pas ça quelque part, on manque un peu le bateau, comme on dit. Alors, Dieu maintient son exigence éternelle que l'adoration et la crainte de sa personne est maintenue et que toutes ses créatures, les hommes en particulier, doivent, il le dit avec une grande autorité, et cette revendication-là d'avoir le droit à la crainte et à l'adoration, elle est maintenue de tous les siècles et elle sera maintenue jusqu'à la fin. Et c'est ce qui fait que Dieu a le devoir de détruire le royaume de l'Antichrist qui essaie de ne pas vouloir se plier à cette exigence-là, cette revendication-là, à cette exigence qui est très sévère et que Dieu n'autorisera aucun manquement à cet égard-là. Alors, quand on regarde, on parle des alertes. Alors, ici, on a l'alerte du premier ange. Dans les versets 6 et 7, on a le premier ange qui va venir rappeler aux hommes leur devoir. Alors ici, dans la version Sterval, Apocalypse 14, versets 6 à 7, se lit comme suit. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Très important de voir que ça vient après le chapitre 13 et après la description de l'apparente victoire que le royaume de l'Antichrist est établi et qu'il a vaincu les saints. Ici, on vient nous rappeler que l'Éternel va dire aux hommes qu'il ne renonce pas à sa prérogative, il exige des hommes la crainte de sa personne et l'adoration de sa personne, et il ne tolérera pas que les hommes se rebellent contre ce devoir qu'ils ont. Une chose qui est importante à mentionner ici, c'est parce que on veut faire une remarque concernant l'interprétation que certains ont donnée à ce passage-là. Alors, nous rejetons l'interprétation qui affirme qu'à la fin des temps, un ange proclamera l'évangile de Jésus-Christ comme dernier avertissement à toutes les nations. Nous sommes dans la vision de l'apôtre Jean, et le tout dans cette vision-là est de nature symbolique. Nous devons relire ce que je viens de vous mentionner, ceux qui ont les notes, vous pourrez les relire, pour se rappeler le sens de l'évangile éternel. C'est vraiment cette idée que Dieu exige de tous les hommes, et c'est quelque chose, une fois qu'il l'appelle éternel, il a toujours demandé de toutes ses créatures, qu'ils soient des anges ou des hommes, qu'ils soient craints et qu'ils soient adorés, et ceux qui se rebellent contre cela, qu'ils soient des anges ou des hommes, vont devoir assumer les conséquences éternelles de leur rébellion. Alors ici, il y a plusieurs choses à remarquer dans les versets 6 et 7. Et premièrement, l'endroit où l'ange, le premier ange, manifeste cette affirmation-là, c'est dans le milieu du ciel. Alors, ici, l'idée qui est exprimée, c'est celle-ci. C'est que Dieu veut que tous les hommes, sans exception, peu importe l'endroit où il se situe sur la terre, le milieu du ciel, c'est comme une idée que tout le monde, c'est l'endroit pour être vu, et c'est l'endroit pour être entendu par tous les hommes, sans exception. Donc l'endroit de l'alerte est important. Dieu veut que ce soit comme public, officiel, et que tout le monde, sans exception, voit la chose très clairement. Il y a aussi à considérer l'auditoire de l'alerte. Le Seigneur veut donner une alerte, il veut que tout le monde la voie, il veut que tout le monde l'entende, mais il veut aussi mentionner à qui ça s'adresse, de façon très précise. Il dit « à tous ceux qui habitent sur la terre ». Et bien entendu, le texte le dit « toutes les personnes sont concernées ». Les nations, peu importe, France, Angleterre, Allemagne, Chine, États-Unis, n'importe où. Les tribus, les langues et les peuples. Autrement dit, il n'y a aucune personne qui est exemptée d'écouter le message, que l'auditoire est clair, c'est l'ensemble de tous les habitants de la planète Terre. Alors l'auditoire est clair. Et autre chose à prendre en considération, c'est le ton que le Seigneur, que le Seigneur utilise pour donner l'alerte. Il utilise l'expression d'une voix forte. Alors, quand tu es placé à un endroit où tu peux être vu et entendu et que tu parles fort pour que tout le monde entende le message, c'est commandé avec force et le Seigneur utilise toute son autorité pour leur donner le message. Et bien entendu, l'alerte, bien, elle comprend un message et le message est clair. Craignez Dieu et lui donner gloire. Alors, les êtres humains, dans le chapitre 13, les êtres humains pouvaient être portés à donner crainte à l'Antichrist, à ses serviteurs, à avoir peur des représailles. Et le Seigneur ici, il leur dit, n'ayez pas peur d'eux. La seule qui mérite la crainte, c'est lui, personnellement, Dieu lui-même. Donc, craignez Dieu et lui donnez gloire. On donne gloire à Dieu en l'adorant. En l'adorant, non pas en adorant, comme on a vu dans le chapitre 13, la bête et les gouvernements, qu'ils soient religieux ou politiques. Alors, le message de l'alerte, ce n'est pas, bien entendu, l'Antichrist qu'il faut craindre, mais bien le Seigneur qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il y a aussi, on peut considérer l'idée, le moment de l'alerte, car ça dit « car l'heure de son jugement est venue ». Alors l'heure de rendre des comptes par tous les individus, par toutes les nations, tous les peuples, alors l'heure est arrivée. Vous devez rendre des comptes à celui qui a une exigence envers vous et de voir comment vous vous êtes plié à cette exigence-là. Très important de saisir que l'heure des comptes a sonné. Et en plus, il leur rappelle l'obligation, bien sûr, il y a craindre Dieu, mais il y a aussi l'obligation. Il y a une obligation qui se rattache à ça, adorer. Adorer non pas l'Antichrist, mais le vrai Dieu. Alors, la véritable adoration ne peut se faire qu'au Créateur qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. La souveraineté absolue de Dieu et la royauté de Christ doit être reconnu par les hommes. On va aller regarder deux autres passages du Nouveau Testament où on parle encore autour de ces idées-là. Alors, on a celui de Actes 14, verset 15, où on nous rappelle, où Dieu rappelle aux hommes qu'ils se doivent de se détourner du péché, de se repentir et aussi de se convertir au Dieu vivant. On lit le verset 15 du chapitre Actes 14 et disant, ô hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes sujets aux mêmes infirmités que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vanités et que vous vous convertissiez au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Alors, c'est vraiment un peu la même idée. À l'époque, Paul annonçait le salut, la nécessité de se repentir, la nécessité d'adorer le véritable Dieu et la nécessité de se convertir au Dieu vivant. Et on voit dans le livre de l'Apocalypse qu'il n'y a rien qu'à changer. Et encore une fois, on va aller regarder un autre passage du Nouveau Testament, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, où on voit ici l'universalité. L'universalité, c'est que le message s'adresse à tous. Alors ça dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors Dieu veut que les hommes sachent que le jugement est une réalité et que cette réalité-là a plusieurs facettes. Elle est immuable. Quand on parle d'un évangile éternel, on a donné tantôt sa signification, mais la réalité du jugement, elle est immuable parce que ces choses-là ne changeront pas. Immuable, ça veut dire qu'il ne bouge pas, qu'il ne changera pas. Elle est aussi inévitable. Que les hommes pensent qu'ils peuvent éviter le jugement de Dieu, et comme on dit, peuvent rêver, mais ça n'arrivera pas, ils vont être jugés au moment choisi par Dieu. Alors, c'est aussi un jugement qui va être de nature irréversible. À partir du moment où le Seigneur va détruire le royaume de l'Antichrist, qu'il va établir le sien, bien entendu, toutes ces choses-là, c'est irréversible. Alors, le moment de se convertir, si conversion peut y avoir, c'est maintenant. Parce que quand le Christ va revenir, il va être trop tard. Et là, à ce moment-là, les décisions concernant la destinée éternelle des individus, des hommes, vont être décidées et vont être de nature irréversible. Et aussi, je pense que dans le texte, on voit la question de l'imminence du jugement. Bien sûr, nous, on croit véritablement, beaucoup de chrétiens actuels, beaucoup de pasteurs, beaucoup de théologiens croient que nous sommes véritablement très, très proches des temps de la fin. Alors, ça peut se calculer peut-être en termes de quelques années, peut-être quelques décennies, mais on pense que vraiment c'est proche, proche, proche. Alors, à ce moment-là, l'imminence, ça implique qu'il ne te reste pas beaucoup de temps. Et nous, ça doit avoir un impact dans notre propre vie concernant la question de se préparer et la question aussi d'avertir nos bien-aimés, ceux qui nous entourent, nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, prendre ça au sérieux parce qu'il est vrai qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps. Alors Dieu veut que les hommes sachent que le jugement est une réalité et que cette exigence divine, de la façon dont les hommes vont l'accueillir, de craindre Dieu et de l'adorer lui seul, va avoir des conséquences éternelles pour les âmes des hommes. Conséquences éternelles, ça veut dire ou c'est le ciel, ou c'est l'enfer, c'est pas compliqué. Mais on ne peut pas jouer avec ça et dire « je vais attendre un peu plus tard ». Si tu entends la voix de Dieu, tu es mieux de réagir maintenant. Alors, on va regarder un petit peu la deuxième alerte, l'alerte du deuxième ange qui est dans le verset 8. Alors, le verset 8, l'alerte du deuxième ange, c'est celle de faire réaliser aux croyants que Babylone est tombée. On lit le verset et après on vous donnera quelques explications. Et un autre ange le suivit en disant « elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Chose intéressante à noter ici, c'est qu'il est en train de parler du futur. Et il utilise le passé pour parler de que Babylone est tombée. Mais c'est parce que dans le décret de Dieu, les décisions sont prises et c'est des choses qui vont arriver inexorablement. Et pour Dieu, c'est comme si c'était fait. Alors c'est pour ça qu'il veut que les chrétiens voient, comprennent de façon très claire que le royaume de l'Antichrist, Babylone la grande, elle est tombée déjà dans l'esprit de Dieu, c'est déjà réalisé. C'est juste une question que ça va se réaliser dans le temps et dans l'espace. Mais plus les chrétiens vont comprendre cette idée-là, de façon claire, plus ils vont être, ça va faciliter leur tâche de traverser les temps difficiles. Alors, bien sûr, le temps du verbe « est tombé » est au passé, alors qu'on parle d'un événement futur. En un mot, c'est un décret divin qui va s'accomplir très certainement pour la simple et bonne raison qu'il a été décrété par Dieu lui-même. C'est important, quand on parle de Babylone la Grande, on pourra faire beaucoup de commentaires sur le Babylone la Grande, mais on va aller un petit peu dans l'Ancien Testament et on va aller regarder comment cette Babylone la Grande, à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque du roi Nebuchadnezzar et dans le livre de Daniel, comment elle se comportait et comment elle cherchait à vouloir tout s'attribuer la gloire et à enlever Dieu de l'équation, comme on pourrait dire. Alors, de la même manière que Babylone dans l'Ancien Testament avait été très arrogante et avait en quelque sorte mis Dieu au défi, rappelons que le roi Nebuchadnezzar avait commis un péché très grave. On peut aller lire, par exemple, dans le chapitre 4 de Daniel, les versets 30 à 37. Et après, on va regarder un petit peu quelle sorte de péché on peut constater dans ce passage-là et faire la comparaison avec les péchés de Babylone la Grande, la moderne, celle dans laquelle on est en train de vivre dedans. Alors, Daniel, chapitre 4, versets 30 à 37. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ta royauté va être ôtée. On te chassera du milieu des hommes. Et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbes comme les bœufs. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes et il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Le sens me revint et je bénis le souverain et je magnifiai et j'honorai celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu ?» En ce temps-là, le sens me revint. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et une plus grande puissance me fut donnée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Je pense que le passage ici, ça va très bien avec le passage qu'on est en train d'étudier. Si on analyse le texte un petit peu, on se rend compte qu'il y a plusieurs péchés dans l'attitude de Babylone et de son peuple Bien entendu, je pense que les péchés de Babylone, c'est une apostasie, un éloignement de Dieu, un abandon de Dieu sous toutes ses formes. Et tous les fruits qui vont avec l'adoration du véritable Dieu vivant, et eux sont en train de récolter les fruits de l'adoration d'un faux Dieu. Alors ici, on a plusieurs péchés. Quand on étudie un petit peu Babylone et le livre de Daniel, on se rend compte que le roi Nebuchadnezzar était plongé très profondément enraciné dans le péché. Et plusieurs péchés dominaient la vie des Babyloniens de l'époque. C'était bien entendu la débauche sexuelle. Il y avait beaucoup de débauche sexuelle. Il y avait dans cette. Et ça ressemble vraiment à la Babylone moderne de nos jours, qui on voit que les mêmes problèmes, rien qui a changé sous le soleil, comme on dit. Il y avait des problèmes d'idolâtrie, parce qu'on se souvient que dans le livre de Daniel, on avait demandé qu'une statue soit élevée, que tout le peuple se prosterne dès que la musique se ferait entendre. Donc l'idolâtrie était vraiment très, très, très avancée. Et il y avait aussi beaucoup d'infidélité envers le véritable Dieu vivant. Et Nebuchadnezzar, ben, vu qu'il avait beaucoup de puissance, croyait que cette puissance venait de lui, qu'il était un roi exceptionnel, alors que le Seigneur lui montre, dans le temps de le dire, juste sur un jugement, qu'il n'est pas plus sa puissance lui vient de que l'Éternel lui a donné et qu'il l'utilise très mal. Il y a aussi le péché de l'illusion du pouvoir terrestre. Quand il voit sa ville, il est tout fier, il voit, moi, j'ai fait ça pour moi, puis c'est moi, puis c'est moi. On voit vraiment qu'il est centré sur son nombril, comme on dit. Alors, il y a l'illusion du pouvoir terrestre. Et on sait que quand l'Antichrist va venir, va établir son royaume, on sait que c'est des choses qui sont en progrès, qui sont déjà à l'œuvre. Il va avoir un genre de même attitude, moi, moi, moi. Alors, et il y a quand même aussi au niveau de Babylone un aveuglement concernant toutes les réalités spirituelles. Et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une servilité. Les gens vont faire n'importe quoi pour se plier aux directives et à la volonté du roi. Et parce que, bien entendu, le peuple finit par ressembler au roi. Et bien entendu, il y a celui de la convoitise dans la Babylone la Grande de l'époque de Daniel et aussi Babylone la Grande de nos jours. L'argent et la convoitise jouent un rôle extrêmement important. Et il y a aussi celui du péché de la fausse sécurité. À cause que les hommes ont établi certaines choses, s'imaginent que maintenant ils sont en sécurité, un peu comme l'a dit les Écritures, lorsque les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Alors, bien sûr, je pense que le message pour le deuxième ange est celui-ci pour les enfants de Dieu, résister à toutes les séductions de ces choses-là qu'on vient de nommer. Résister de façon extrêmement puissante. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va arrêter à cet endroit-là, puis on poursuivra la semaine prochaine pour terminer ce passage-là de l'étude des versets 6 à 13 du chapitre 14. Alors, on arrête là aujourd'hui.
Recording has stopped.